Mon message s'adresse à tous ceux d'entre vous qui souffrent, qui se sentent coupables, qui ont de la faiblesse et des tristesses, et qui sont dans le désespoir. En 1971, on m'a confié la responsabilité de plusieurs conférences de pieux aux îles Samoa occidentales, ainsi que l'organisation d'un nouveau pieu sur l'île d'Upolu. À la suite des entretiens, nous avons affrété un petit avion pour nous rendre à une conférence de pieux sur l'île de Savaï. L'avion atterrit dans un champ à Fala et devait revenir le lendemain après-midi pour nous ramener sur l'île d'Upolu. Le jour où nous devions quitter Savaï, il pleuvait. Sachant que l'avion ne pouvait pas atterrir dans un champ détrempé, nous nous sommes rendus en voiture à l'extrémité ouest de l'île, où il y avait une sorte de piste sur une barrière de corail. Nous avons attendu jusqu'à la nuit, mais aucun avion n'est arrivé. Nous avons finalement appris par radio qu'il y avait une tempête et que l'avion ne pouvait pas décoller. Nous avons répondu toujours par radio que nous viendrions en bateau. Quelqu'un nous attendrait à Mulifanua. Au moment où nous sortions du port de Savaï, le capitaine du bateau de 12 mètres a demandé au président de mission s'il avait une lampe de poche. Heureusement, il en avait une et l'a offerte au capitaine. Nous avons fait la traversée de 24 kilomètres jusqu'à l'île d'Upolu sur une mer très agitée. Nous ne doutions pas qu'une violente tempête tropicale avait frappé l'île et que nous nous dirigeons droit sur elle. Pour atteindre le port de Mulifanua, il fallait prendre un passage étroit le long du récif. Cet étroit passage était signalé par une lumière sur la colline, surplombant la plage, et par une seconde lumière plus bas. Lorsqu'un bateau était positionné de façon à ce que les deux lumières soient l'une au-dessus de l'autre, il était au bon endroit pour traverser en évitant les dangereux rochers bordant le passage. Mais cette nuit-là, il n'y avait qu'une seule lumière. Deux missionnaires nous attendaient sur le ponton de débarquement, mais la traversée avait pris beaucoup plus de temps que d'habitude. Après avoir passé des heures à scruter l'arrivée de notre bateau, les missionnaires, fatigués, s'étaient endormis, oubliant d'allumer la seconde lumière, la lumière du bas. Par conséquent, le passage à travers le récif n'était pas bien visible. Le capitaine a dirigé de son mieux le bateau en direction de la lumière la plus haute de la rive. Pendant que, de la proue, un homme d'équipage tentait d'apercevoir les rochers à la lumière de la lampe de poche empruntée. Nous entendions les vagues s'écraser sur le récif. Quand nous étions assez proches pour les voir avec la lampe de poche, le capitaine criait frénétiquement d'inverser le moteur et reculait pour essayer à nouveau de localiser le passage. Après plusieurs tentatives, il a compris qu'il serait impossible de trouver le passage. Tout ce que nous pouvions faire, c'était d'essayer d'atteindre le port d'Apia à 64 kilomètres de là. Nous étions impuissants devant la force des éléments déchaînés. Je ne me rappelle pas m'être jamais trouvé dans une telle obscurité. Pendant la première heure, nous n'avancions pas, alors que le moteur tournait à plein régime. Le bateau atteignait difficilement le sommet d'une énorme vague, puis, épuisé, s'arrêtait, les hélices momentanément hors de l'eau. La vibration des hélices secouait tellement le bateau que nous avions l'impression qu'il allait être mis en pièces avant de glisser de l'autre côté de la vague. Nous étions allongés sur la trappe de la cale, bras et jambes écartés, nous cramponnant d'un côté avec les mains, les pieds bloqués de l'autre, pour éviter d'être jetés par-dessus bord. Frère Littleford, ayant lâché prise, a été projeté contre la rambarde inférieure. Il s'est fait une coupure à la tête, mais la rambarde l'a empêché d'être éjecté. Finalement, nous avons avancé, et au lever du jour, nous avons accosté au port d'Apia. Par sécurité, les bateaux avaient été attachés les uns aux autres. À l'embarcadère, il y en avait sur plusieurs rangées. Nous nous sommes faufilés, essayant de ne pas réveiller les gens qui dormaient sur les ponts. Nous sommes arrivés à Pesega avons séché nos vêtements et sommes repartis pour Vailutai pour organiser le nouveau pieu. Je ne sais pas qui nous attendait à Mulifanua. Je n'ai pas voulu le savoir. Mais il est vrai que, privés de cette lumière plus bas, nous aurions pu tous disparaître. Dans notre recueil d'hymnes, il y a un très vieux cantique que l'on chante rarement, qui pour moi a une signification très spéciale. Brillamment, l'amour du Père, comme un phare, éclaire tout. Quant à nous, par nos lumières, nous guidons autour de nous. Que nos lampes brûlent claires, indiquant sur le flot noir, au marin perdu qu'hier, le chemin, la vie, l'espoir. Le péché dans la nuit sombre se déchaîne menaçant, et des yeux inquiets dans l'ombre vont chercher nos feux brillants. Fais rayonner ta lumière pour arracher à la mort le pauvre marin qu'hier, à la recherche du port. Je m'adresse aujourd'hui à ceux qui, peut-être, sont perdus et qui cherchent cette lumière du bas pour les guider sur le chemin du retour. Dès le début, il était clair que dans la condition mortelle, nous ne réussirions pas à devenir parfaits. Il n'était pas attendu de nous que nous vivions sans transgresser une loi ou une autre. Car l'homme naturel est ennemi de Dieu et l'est depuis la chute d'Adam. Et le sera pour toujours et à jamais, à moins qu'il ne se rende aux persuasions de l'Esprit Saint et ne se dépouille de l'homme naturel et ne devienne un saint par l'expiation du Christ, le Seigneur. D'après la perle de Grand Prix, nous savons que rien d'impur ne peut demeurer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi un moyen de se repentir et d'être de nouveau digne de se trouver en présence de notre Père Céleste a été prévu pour tous ceux qui pêchent. Un médiateur, un rédempteur a été choisi, quelqu'un qui avait une vie parfaite, ne commettrait aucun péché, s'offrirait en sacrifice pour le péché, pour satisfaire aux exigences de la loi, pour tous ceux qui ont le cœur brisé, l'esprit contrit. Et il ne peut être satisfait aux exigences de la loi pour personne d'autre. Dans Alma, au sujet de l'importance de l'expiation, nous apprenons ceci. Car il est nécessaire qu'une expiation soit accomplie, sinon toute l'humanité va périr. Si vous n'avez commis aucune faute, alors vous n'avez pas besoin de l'expiation. Si vous avez commis des fautes, alors, et nous l'avons tous fait, qu'elles soient bénignes ou graves, alors vous avez un immense besoin de trouver comment elles peuvent être effacées afin que vous ne soyez plus dans les ténèbres. Jésus-Christ est la lumière et la vie du monde. Si nous fixons fermement notre regard sur lui et sur ses enseignements, nous serons guidés vers le port du salut spirituel. Le troisième article de foi dit: nous croyons que grâce au sacrifice expiatoire du Christ, tout le genre humain peut être sauvé en obéissant aux lois et aux ordonnances de l'Évangile. Joseph F. Smith a déclaré: les hommes ne peuvent pas se pardonner leurs propres péchés. Ils ne peuvent pas se purifier eux-mêmes des conséquences de leurs péchés. Les hommes peuvent arrêter de pécher et faire le bien par la suite, et dans la mesure où leurs actes sont acceptables devant Dieu, devenir dignes de considération. Mais qui réparera les torts causés par eux-mêmes et aux autres? Torts qui leur semblent impossibles de réparer personnellement. Par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, les péchés de ceux qui se repentent seront effacés. Même s'ils sont comme le cramoisi, ils peuvent devenir blancs comme la neige. C'est la promesse qui vous est faite. Nous ne savons pas exactement comment le Seigneur a accompli l'expiation. Mais nous savons que la torture cruelle de la crucifixion n'était qu'une partie de la terrifiante douleur qui commença à Gethsémané, ce lieu de souffrance sacrée, et s'acheva à Golgotha. Luc a écrit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. À ma connaissance, il n'existe qu'un seul récit comportant les termes du Sauveur lui-même pour décrire les douleurs qu'il endurait dans le jardin de Gethsémané. La révélation dit, « Car voici, moi, Dieu, j'ai souffert ces choses pour tous, afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se repentent. Mais s'ils ne se repentent pas, ils doivent souffrir tout comme moi. Et ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi, Dieu, le plus grand de tous, et elles m'ont fait saigner à chaque pore. Pendant votre vie, il vous est peut-être arrivé d'aller là où vous n'auriez jamais dû aller, et de faire des choses que vous n'auriez jamais dû faire. Mais si vous vous détournez du péché, vous pourrez un jour connaître la paix qu'on reçoit en suivant le chemin du repentir jusqu'au bout. Quelle que soit nos transgressions passées, quel que soit le mal que nos actes ont pu causer à d'autres, notre culpabilité peut être balayée. À mon avis, la plus belle expression des Écritures est peut-être cette déclaration du Seigneur. Voici, celui qui s'est repenti de ses péchés est pardonné. Et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. Tel est le but de l'évangile de Jésus-Christ et de l'expiation. Accueillir tous ceux qui viennent, tous ceux qui veulent se joindre à nous, et leur faire vivre des expériences qui, à la fin de leur vie, leur permettront de franchir le voile, s'étant repentis de leurs péchés et ayant été lavés par le sang du Christ. C'est ce que les saints des derniers jours font à travers le monde. C'est la lumière que nous offrons à ceux qui sont dans les ténèbres et qui se sont égarés. Où que nos membres et nos missionnaires aillent, notre message est un message de foi et d'espérance dans le Sauveur Jésus-Christ. Joseph Fielding Smith a écrit les paroles du cantique « Le chemin est-il long ?» Ces paroles contiennent un encouragement et une promesse pour ceux qui cherchent à suivre les enseignements du Sauveur. Le chemin est-il long, escarpé et puisant, de chardons et d'épines remplis? Les cailloux du sentier sont-ils aigus, coupants? Avez-vous donc besoin d'un appui? Votre cœur est-il là, triste et découragé, en portant votre part de soucis? Vos fardeaux ici-bas sont-ils lourds à porter? Pour aider, n'avez-vous point d'amis? Oh, ne faiblissez pas en montant le chemin, car l'aimé vous attend tout là-haut. Portez vers lui vos pas et saisissez sa main. Il vous conduira toujours plus haut, au pays saint et pur, où tout cesse la douleur, d'où le sombre péché s'est enfui, où le ciel est d'azur et bannit le malheur. Suivez-le donc, entrez avec lui. Au nom de Jésus-Christ, Amen.